Allô! Bienvenue à Crime de Bine, votre podcast de true crime québécois et canadien.
Préféré depuis 2 ans.
Ouh oui!
Félicitations!
Bine anniversaire à nous!
Pourquoi j'ai dit félicitations?
Félicitations!
Bine anniversaire à nous! Ça fait officiellement 2 ans qu'on est dans vos oreilles.
Oui!
Et merci de nous écouter et d'être une si belle communauté, honnêtement.
Oui, vraiment. Merci.
On vous aime.
Merci, merci.
Bine coup.
Oui, on vous aime bien coup.
Je vais m'habituer un jour à dire des jeux de mots avec Bin. Mais sachez que j'ai Madame Angela assise sur moi et qui découvre sa force du... Donc voilà. Ça va être ça.
Une chance qu'on a un pop filter sur notre micro.
C'est pas des pets, elle fait ça avec sa bouche.
Oui, alors... ben là, c'est ça, ça fait 2 ans qu'on est... On n'est pas pro, mais on est là. Dieu.
On est encore obligé de le dire qu'on n'est pas, on est vraiment pas professionnel.
On est pas. On vous le rappelle de temps en temps.
Bah ouais.
Si jamais vous aviez pas remarqué qu'on n'était pas
des criminologues,
des policières, des journalistes,
des enquêteurs. Mais rien de ça.
Rien de ça. Des moments.
On a des moments à congé maternité.
Qui font un podcast. Qui font un podcast de true crime.
Fruit de la pandémie. Voilà. C'est ça qu'on est.
Ouais. Ben c'est ça. Fait que annonce pour nos 2 ans. Contrairement à l'année passée, on n'est pas enceinte.
Non.
Parce que l'année passée,
on avait fait ça.
Oui,
on avait annoncé
un an, c'était qu'on a annoncé qu'on était enceinte.
Ah, on n'est pas enceinte.
On n'est pas enceinte, gang. Donc la vraie grosse annonce.
Ouais.
Ben c'est qu'on va sortir de la merch.
Woup, woup, woup.
Là on enregistre un peu l'épisode d'avance. Je dois vous avouer, fait que c'est pas fait, mais surveillez nos réseaux sociaux. On va faire des annonces dès que c'est disponible. Oui. Ça va probablement être quelque chose bien de base pour commencer, mais on veut sortir plusieurs merch et faire plusieurs designs. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que surveillez les médias sociaux. Là. Bientôt, on va sortir
full
la merch.
Extent.
Oui!
Et vous nous direz qu'est-ce que vous préférez dans la merch.
Ouais.
D'avoir des hoodies, des t-shirts,
des tasses,
shooters, des phone cases. Écoute, sky's the limit, dites-nous.
Des cache-couches.
Ah, ça serait bon. Et ça serait vraiment notre marque de commerce.
Vraiment.
Bon, à suivre.
À suivre, ouais.
Donc, yes!
Yes!
Trop content!
Ouais, fait que ça, c'était la grosse annonce pour mon 2 ans. Puis, ben là, pour vous faire plaisir, vu que c'est les 2 ans, j'ai choisi une histoire.
Attends, t'as un crime de potin?
Ah oui, j'ai un crime de potin. Excusez, je suis énervée.
Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai trop hâte de raconter mon histoire.
Mais non, mais tantôt, t'as dit, hey, j'ai un crime de potin trop drôle.
Il est vraiment drôle.
Je disais, je l'ai pas lu, dis-moi là-bas.
C'est un crime de potin pour confirmer que Saint-Jérôme, c'est trash.
Parce que. Ah, parce qu'on avait encore besoin de confirmation. Colin.
En plus, la fille. Ok, attends, je te lis ce qu'elle m'écrit, c'est drôle. Tu sais, elle dit: le centre-ville de Saint-Jérôme est probablement l'endroit le plus pauvre, qu'il y a des HLM et des appartements un peu délabrés. Mais sinon, les autres quartiers sont très beaux. Mais c'est sûr qu'il y a des gens spéciaux quand. Ok, ça commence. Elle essaye de dire que c'est pas si pire, mais finalement, c'est vraiment si pire.
Ah,
juste en disant
Dieu.
Son histoire. OK. Elle dit: quand j'avais 18 ans, je passais beaucoup mes nuits à me promener avec des amis. Classique. Et j'ai rencontré un gars qui se promenait avec une machette pour se protéger. Et il nous avait invités à aller chez lui avec mes amis. Et quand on est entré dans son appartement, ça veut dire que...
Parce qu'ils sont allés.
Les
filles, come on!
J'y ai bien dit, après, j'étais comme... Il vous a rencontré une
machette à la main.
Puis vous acceptez son invitation d'aller chez lui.
Ben oui, alors. Mais à 18 ans, tu t'es un peu coco, là.
Ouais.
Ma fille est réveillée, sorry.
Et quand on est entré dans son appartement, il y avait des choses partout à terre et on avait de la misère à se déplacer. C'était tellement sale que dans la cuisine, il y avait de la lasagne sur le dessus du poêle. Et ça faisait tellement longtemps que c'était là que la moisissure avait pogné sur le mur.
Sur le mur?
Ouais, dégueulasse.
Wow.
Mais il était super gentil et il avait juste vraiment des problèmes mentaux. Et on est parti de là et une semaine... Oh, mais ça, c'est vraiment triste, en fait. Et une semaine plus tard, il s'est fait tuer d'une balle dans la tête. Mais je sais pas pour quelle raison. Elle dit peut-être qu'il y avait un problème d'argent, un dealer qui devait de l'argent, à qui il devait de l'argent.
D'où peut-être la machette.
Ben, en fait, c'est ça. Fait que finalement, le dude, il avait raison de se promener avec une machette.
Ouais. Pauvre petit cœur.
Ouais. Mon Dieu. Ouais, c'est quand même vraiment triste.
Mais en même temps, on sait pas l'histoire, là. Peut-être que c'était un mauvais garçon, mais.
Mais en tout cas, elle dit qu'il était vraiment gentil, mais c'était juste qu'il avait des problèmes mentaux. Pas traités, okay. Probablement.
Wow. Fait que Saint-Jérôme, c'est toujours pas un endroit où j'irai habiter.
Non. Non.
Sorry, la gang de Saint-Jérôme, ouais. Mais.
Attends, puis après ça, elle dit...
Même les gens de Saint-Jérôme, quand ils nous racontent des histoires, c'est pas des belles histoires.
Non.
On peut-tu avoir une belle histoire qui vient de Saint-Jérôme?
Attends, j'en ai une autre. Elle me dit, après ça, elle dit, sinon, il y a peut-être 15 ans, une femme avait tué son colocataire, elle l'avait démembré et elle avait jeté ça dans un conteneur en arrière d'une pizzeria.
Je réitère ma question. Y a-tu quelqu'un qui peut nous écrire avec une belle histoire de Saint-Jérôme, s'il vous plaît? Calé! Voyons non.
Voilà.
Hein?
Ça me fait vraiment rire.
Hey, ça me fait penser, j'ai oublié de te dire, mais là, ça va trahir un peu la date à laquelle on enregistre l'épisode, mais avant hier, samedi soir, on est mardi, donc avant hier,
ouais.
À 8h30, il y a deux personnes qui se sont faites tuer à côté de chez nous.
Oui, tu m'as texté ça.
Ah oui, c'est vrai, je te l'ai texté.
Puis t'as entendu les coups de feu?
Ben, pas moi, mais mon amie, elle fumait dehors. On était chez nous avec des amis, puis elle fumait dehors à peu près à 8h30, puis elle m'a dit « J'ai entendu des coups, mais je pensais que c'était des feux d'artifice. »
Oh my God.
Puis genre la rue à côté de chez nous. Là.
Hey.
Deux personnes, on sait toujours pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui est passé en auto, bang, bang, il a tué une femme puis un homme de 35 à 40 ans, quelque chose comme ça. Hey. Juste à côté de chez nous, à Longueuil.
Ouais, Longueuil, c'est trash. Hein, on le savait.
Longueuil, c'est vraiment trash. Mais Saint-Jérôme, genre mon top 2, c'est Saint-Jérôme numéro 1.
Ouais, clairement.
Longueuil numéro 2.
Clairement.
Peut-être Montréal-Nord numéro 3.
Ben, Laval, il y a beaucoup de violeurs, selon nos
oui,
histoires.
Oui, c'est vrai, selon nos histoires, hein. Hey, my God. Hey. Fait que, s'il vous plaît, appel à tous. On aimerait ça avoir une histoire qui finit bien dans Saint-Jérôme, s'il ouais. Vous plaît. Merci. Sinon, on va continuer à tracher.
Ou d'autres histoires trash, moi, ça me fait très plaisir.
Mais sans mal, mais Colin.
Ouais.
Les faits sont là, là.
Les faits sont là.
Mm. En tout cas, bref. Donc, aujourd'hui, on vous raconte. Ben, on. Hélène, pas moi. Mais un des plus gros cas au Québec. Roulement de tambour.
L'affaire Cédrica Provencher.
Mon Dieu, que vous avez été beaucoup à nous la demander, celle-là.
Ouais. C'est...
Parce qu'on se rappelle. Moi, quand tu me dis que tu voulais faire celui-là, tu sais, on se rappelle de l'histoire. On sait qu'est-ce qui est arrivé. La petite Cédrica est disparue. Et finalement, en tout cas,
décédée. Ouais, brûle pas les punches. Pour ceux qui la connaissent pas.
Sorry, mais. On connaît pas, en tout cas, moi, dans mon cas, je connais pas extrêmement tous les détails.
Non, moi non plus, je connaissais vraiment pas les détails, en fait.
Fait que j'ai comme pas fait de recherche. Ouais. Fait que j'ai hâte d'entendre l'histoire au complet, en fait.
Ouais. Fait que vous, en tout cas, si vous êtes Québécois, vous en avez entendu parler. Oui. Sauf si vous avez habité dans une caverne, comme Mel pour le truc de l'Halloween du samouraï.
J'avais pas de télé puis j'avais pas de routeur encore quand je venais de déménager.
Mais pour les amis français, c'est ça. C'est comme l'histoire d'enlèvement d'enfants la plus connue au Québec.
Mm.
Vraiment, vraiment, vraiment.
Ça fait pas tant longtemps. C'était quel an?
C'est...
2007.
Ouais. Alors, je vous raconte ça.
Go.
Go. Donc, mes sources, Wikipédia, comme une page assez complète sur Cédrica, vu que c'est un cas connu. Puis sinon, plein d'articles dans Le Soleil, Radio-Canada, TVA. TVA pour ce genre d'affaires-là. Là.
Ils sont là.
Ils sont là. CBC, même, ça, même dans les réseaux anglophones, ça en a parlé beaucoup. Alors, je commence. La petite Cédrica Provencher, elle est née le 29 août 1997. Sa maman, c'est Karine Fortier et son papa, Martin Provencher. Et elle avait aussi une sœur qui s'appelle Mélissa. L'histoire... qui l'a rendu tristement célèbre, se déroule à Trois-Rivières, le 31 juillet 2007. Alors, Cédrica, elle avait 9 ans. Elle était vêtue d'une robe verte et de sandales de plage. Elle est partie avec son vélo jouer au parc Chappet. Elle allait rejoindre une amie là-bas. C'était vraiment normal pour elle de faire ça, puis elle avait l'habitude de rentrer seule à vélo quand le soleil commençait à se coucher. Donc, elle rentrait tout le temps avant 7h45, normalement. C'était une bonne petite fille, là, vraiment. Pas de problème. Mais là, ce soir-là, Cédrica ne rentre pas. Fait que tout de suite, sa maman s'inquiète, son papa aussi. J'imagine, je l'ai pas lu, mais j'imagine qu'ils sont allés voir au parc Chappet. C'était là. Bref, ils trouvent pas Cédrica. Ils appellent vraiment rapidement les policiers pour déclarer sa disparition. Et là, c'est un cas où les policiers ont quand même bien réagi sur le coup. T'sais, à ce moment-là, ils ne savaient pas que c'était un enlèvement. T'sais, ça pouvait être autre chose, un accident perdu. Au pire, une fugue. Mais t'sais, ils ont vraiment mis le paquet tout de suite. Là, genre, ils ont commencé les recherches le soir même.
Parce que souvent, on entend dans les cas de disparition, quand tu appelles, ils disent faut que la personne soit disparue pendant 24 heures, quelque chose comme
mais
ça.
Non,
mais j'imagine que peut-être vu qu'elle avait 9 ans.
Oui, c'est ça. Elle avait 9 ans. Fait que c'était pas normal. T'sais.
Non.
Même si un enfant de 9 ans fait une fugue, tu veux la retrouver au plus crisp parce que
ben oui.
C'est dangereux, là, tu sais.
Je sais pas c'est quoi les règlements par rapport à ça.
Mais je pense pas que c'est vrai.
Non?
Ben, je crois que c'est comme souvent dans les podcasts américains, ils disent que c'est pas vrai qu'il faut que t'es obligé d'attendre 24-48 heures. C'est comme les polices qui disent ça, mais il y a pas de loi qui dit ça, tu sais.
Ben non, parce qu'après ça... Ouais. Mais en tout cas, on l'entend tout le temps, mais...
Ouais.
Bref. Mm.
Fait que c'est ça. Fait qu'ils mettent le paquet, là. Il y a une cinquantaine de policiers, des centaines de bénévoles qui sont déployés, qui font des recherches. Il y avait même d'accès à des bateaux, des hélicoptères. Vraiment, là, genre,
la ils ont mis affaire.
Gros budget, là, gros paquet. Le lendemain, on retrouve son vélo à 1,5 km de là, derrière un conteneur à déchets. Apparemment que c'est des ados qui l'avaient vu traîner, dans le fond, près du parc, puis il était comme parti avec, puis l'avait laissé plus loin.
OK.
Mais dans le fond, fait que dans le fond, son vélo, il était resté près du parc. J'ai aussi lu ailleurs qu'ils disent qu'ils ont retrouvé son vélo le soir même à 8h30. Fait que je sais pas laquelle
c'est des versions. C'est sûr que là, à la tonne de médias qui couvraient cette histoire-là, c'est
fois...
sûr que les informations doivent être un peu mélangées.
Ouais, c'est ça. Fait que des fois, on sait pas quoi croire. Okay. Mais bref, ils ont retrouvé son vélo pas longtemps après, pas trop loin.
Ce qui est important à savoir, c'est qu'elle n'a pas quitté le parc en vélo.
Non, c'est ça. Et là, en interrogeant des témoins, rapidement, ils apprennent des choses intéressantes. Pendant la journée, il y a plusieurs témoins qui ont vu Cédrica et elle était, dans le fond, elle a cogné à plusieurs portes disant qu'elle aidait quelqu'un à rechercher un chien.
Ah!
Fait que c'est ça. Elle allait cogner aux portes et elle demandait aux gens, avez-vous vu un chien?
Okay.
Fait qu'elle aidait quelqu'un à retrouver un chien. Il y a un autre moment dans la journée où il y a des témoins qui l'ont vu avec son ami et un homme.
Oh!
Et la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au coin des rues Chenot et Chapet. Et l'indice le plus important que plusieurs témoins disent, c'est qu'il l'aurait vu monter à bord d'une Acura rouge au poignet argent.
Oh!
Et là, les policiers prennent ça au sérieux. Puis là, ils regardent les caméras de sécurité dans le quartier. Puis il y a une caméra dans une station d'essence à proximité sur laquelle on voit cette Acura rouge avec les poignets argent, là, la même que les témoins ont décrite dans les heures qui fitraient, dans le fond. Fait que là, dès le début, les parents de Cédrica, eux, ils sont sûrs que c'est un enlèvement. Là. Ils savent que leur petite fille, elle serait pas partie. Ils savent qu'elle n'a pas fait une fugue.
Non, tu connais ta fille.
Ouais, c'est ça. Tu sais que c'est ça. Mais les policiers, ils ont seulement déclaré le 3 août. Dans le fond, elle a disparu le 31 juillet. Puis le 3 août, ils ont dit « OK, c'est un enlèvement. » Fait que là, il y en a plusieurs qui ont critiqué là-dessus de ne pas avoir déclaré que c'était un enlèvement plus tôt puis de ne pas avoir lancé une alerte Amber.
OK, parce que quand tu déclares l'enlèvement, l'alerte est lancée direct.
Ben, c'est que non, c'est pas direct. En fait, l'alerte Amber, ça prend un véhicule. Mais là, il y en avait quand même un véhicule.
Ouais,
mais c'est sûr qu'il n'était pas sûr à 100% que c'était ça. Mais il y avait quand même des bonnes raisons de croire que c'était ça. En tout cas, fait qu'ils se sont fait un peu critiquer là-dessus de ne pas avoir lancé l'alerte Amber puis d'avoir attendu quelques jours avant de dire que c'était un enlèvement, tu sais.
OK.
Et là, rapidement, là, ça a été tellement médiatisé, là, il y a tellement de médias qui se sont pointés à Trois-Rivières pour couvrir l'affaire. Puis, quelque chose qui a beaucoup marqué aussi, c'est que les parents, ils étaient très disponibles pour les médias. Alors que c'est pas tous les parents qui vont parler à la caméra quand il y a un enlèvement, puis on les comprend, là. Tu veux vivre ta peine puis ton stress tranquillement, là. Pas devant tout le monde, mais eux, ils étaient vraiment disponibles. Fait que ça fait que les gens, ils en ont encore plus parlé. Parce que là, tu vois, tu sais, j'ai vu des entrevues de la mère comme la première fois qu'elle s'est adressée aux médias, là, elle pleure, là. Puis elle fait juste demander que sa fille. Oh my god, j'ai envie de pleurer juste en le disant, là. Tu sais, fait que c'était super touchant, là. Fait que ça a vraiment là, touché le cœur de tous les Québécois, tu sais, de voir ces parents-là, genre, en grosse détresse.
C'est pour ça que ça en a fait un cas des plus discutés au Québec.
Ouais.
Parce que la madame, les parents ont vraiment absolument. Fait le plus de bruit qu'ils pouvaient.
Ouais, vraiment.
Ils ont pris tous les médias, toutes les journaux, les Facebook, il y avait des groupes Facebook, ouais. il y avait tout.
Je pense qu'il y avait même des affiches sur l'autoroute, là, tu sais, genre des grosses. Des...
Ah, ça, je les ai pas vues.
Il me semble, tu sais, il y avait des affiches. Oui, je me rappelle d'avoir vu des affiches de Cédrica partout. Oui. Genre, tu sais, on voyait sa face, on l'a vu.
Oui, genre, sa face tout le monde connaît son visage. Tu dis Cédrica Provencher, on la voit, les yeux foncés, les cheveux noirs.
Et il y a même Claude Poirier, là, le chroniqueur judiciaire ou notre saint du true crime. Je pense que le jour où il va mourir, on devrait le canoniser pour qu'il devienne le saint du true crime québécois. Là. Il est partout tout le temps. Là. C'est pas la première fois qu'on en parle dans nos histoires. Là.
Non.
Fait que, tu sais, lui, il s'est pointé là, il a offert de son temps, puis il a lancé, genre, une ligne, un numéro, genre, vous pouvez m'appeler 24 heures sur 24 si vous avez quelques indices que ce soit. Il a même offert un montant de 100 000 $ pour, s'il y avait des informations, on pouvait mener à retrouver Cédrica. Ouais.
OK.
Fait que, c'est ça. Fait que là, évidemment, là, à travers les mois, les années, dans la recherche de Cédrica, ben Comme dans tous les cas de disparition, il y a plein de gens qui ont dit « Hey, moi, je l'ai vu à tel endroit. Moi, je l'ai vu à tel endroit. » Il y a tout le temps ça. Il y en a qui a dit qu'il... Mani était sûr que quelqu'un l'avait vu au Nouveau-Brunswick. Mani, une petite fille en Russie qui ressemblait vraiment, genre, en tout cas, plein de cas. Mais finalement, c'est tout le temps des fausses pistes. Il y a plus de 150 voyants, là, médiums, genre, qui ont contacté la famille, tu sais.
Oh my God.
Claire, retour sur l'enquête. Alors, La voiture Acura rouge reste l'indice le plus important que les policiers ont pour l'instant. Fait que là, ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent tous les propriétaires d'Acura rouge au Québec. Il y en avait 258.
Ah, c'est pas tant.
C'est pas tant que ça. Puis, il y en avait seulement 6 qui correspondaient vraiment genre à...
Les poignées.
Ouais, les poignées. Puis, vu qu'ils l'avaient sur caméra...
Il y avait des détails.
Il y avait des détails. Fait qu'il y en avait seulement 6. Fait que ça l'a vraiment réduit...
Extrêmement.
Et il y a seulement un de ses propriétaires qui avait un alibi qui ne pouvait pas être corroboré et qui habitait à Trois-Rivières. Et qui refusait et qui a refusé de passer un polygraphe. Alors, je te parle du suspect principal de l'affaire Cédrica. C'est un certain Jonathan. Il a 36 ans et il travaille à une entreprise familiale, donc avec ses parents, chez Emballage BT. Pourquoi c'est un bon suspect? Bon, il y avait le véhicule.
Ouais.
Quand il est interrogé en septembre, donc pas longtemps après, là, quelques semaines après la disparition, il dit « Oui, vous pouvez fouiller mon véhicule. » Sauf qu'en ce moment, il est chez le réparateur dans une autre ville. Fait que, tu sais, vous n'y avez pas accès.
Dans une autre ville?
Ouais, il était comme un peu plus loin, je sais plus.
OK.
Il était chez le réparateur. Fait que finalement, par le temps que les policiers, il a fallu qu'ils demandent un mandat pour fouiller la voiture. Et quand ils ont finalement accès à la voiture en décembre, la voiture était complètement nettoyée et genre...
Bleach pis tout, là.
Ta! Fait qu'ils n'ont rien trouvé dans la voiture.
En décembre, là, elle a disparu, elle a disparu le 31 juillet.
Ça a dû être long d'avoir le mandat, je sais pas.
Tabarnouche, mais le gars, il a eu le temps. T'sais. Je te laisse continuer, je suis déjà fâchée.
c'est ça, il n'y avait pas vraiment d'alibi. Donc, lui, il dit qu'il est allé jouer 9 trous de golf et qu'ensuite, il s'est rendu...
Tout seul?
Ouais, je sais pas s'il était tout seul. Ça, je l'ai pas vu. J'ai pas vu cette information-là.
Ben, ça pouvait pas corroborer son alibi.
Mais en fait, c'est plus après le golf, dans le fond.
Ah, OK.
Mais dans le fond, il dit qu'après le golf, il s'est rendu chez ses parents pour faire l'entretien de la piscine puis des plantes. Mais.
Ses parents étaient pas là.
Mais il dit que sa tante était déjà sur place. Fait que quand il a vu que sa tante était là, il a rebroussé chemin. Puis il est pas allé chez ses parents. Puis après ça, il est rentré chez lui, puis il a écouté la télévision, puis c'est tout. C'est ça, son alibi. Puis sa tante, elle, a dit qu'elle a vu personne cette journée-là. T'sais, elle l'a pas vu arriver à la maison. Là.
Mais elle était chez les parents?
Oui, elle était chez les parents. Puis elle a dit qu'elle
lui,
a pas
il a vu sa tante, puis il a eu peur? C'est quoi? Il l'a eu, sa tante?
Je sais pas.
Comme, oh non, merde, ma tante est là. OK.
Ben, c'est ça. Lui, il dit qu'il s'est jamais rendu dans le quartier du Parc Chappelle.
OK.
Que c'est pas lui sur la caméra de surveillance de la station d'essence.
OK.
Il refusé plusieurs fois de passer un polygraphe. Et dans les informations que Claude Poirier a recueillies, apparemment qu'il essaie de planifier de quitter le Québec vers la Suisse, un pays qui n'a pas d'extradition vers le Canada. Là.
Quelle coïncidence.
Alors, c'est vraiment un bon suspect. Donc, les policiers, ils mettent sous surveillance, caméra cachée, téléphone sous écoute.
Grosse affaire.
Et pas lui, ses parents, son ex et certains de ses amis aussi. Là, téléphone sous écoute et déplacement monitoré. Là, genre,
okay.
Ils mettent le paquet. T'sais. En 2011, donc là, on est quand même 4 ans après, il y a un journaliste de je sais plus si c'était TVA ou LCN, en tout cas, qui essaie d'aller lui parler, genre, dans son stationnement. Puis là, il dit...
À Jonathan?
Ouais, à Jonathan. Fait que là, il dit, est-ce que je peux vous parler de Cédrica Provencher? Puis là, Cédrica...
Jonathan.
Il répond, ah oh, non, ça m'intéresse pas. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. Je trouve ça comme vraiment... wack et insensible comme réponse. OK, ça t'intéresse...
C'est parce que lui, il sait qu'est-ce qui est arrivé.
Ouais, pour toi, ça t'intéresse pas, c'est de l'histoire ancienne. Mais tu sais, pour les parents, c'est pas de l'histoire ancienne. Là. Ils sont encore en train de chercher leur fille, genre jour et nuit. Là. Genre... En tout cas, je trouve ça vraiment wack comme réponse.
Extrêmement louche.
Je peux comprendre qu'il veut pas parler aux médias, mais...
De cette manière-là, ouais.
Ouais. Et là, les policiers font le tout pour le tout. C'est-à-dire un Mr. Big.
Oh yes! On a expliqué ça un peu, c'était
ouais,
quoi dans un de nos épisodes?
Oui, je ne sais plus si on en avait déjà parlé d'un Mr. Big.
Oui, on l'a expliqué à un moment donné.
C'est ça, donc Mr. Big, là, ils font à croire que...
L'infiltration.
Que c'est ça, qu'il y a des amis, puis c'est des gens dans une genre de mafia, genre crime organisé, puis plein de scénarios, c'est vraiment whack.
Donc, ça.
Alors, je te raconte le Mr. Big qu'ils ont fait. Donc, en 2009, ça commence. Premier, tu sais, j'ai lu comme les 25 scénarios qui ont fait.
25?
C'est comme un petit résumé de. Parce que c'est comme en étapes. À chaque fois qu'il rencontre le suspect, c'est comme un scénario qui joue, tu sais. Fait que j'ai lu les 25 scénarios.
My
fait
God.
Pendant...
T'es motivé?
Ouais. Mais c'est juste comme un petit paragraphe par scénario. Mais... Avec le premier, dans le fond, ça commence. Quelqu'un sonne à sa porte et il lui dit: Hey, veux-tu participer à un concours? Pour gagner une fin de semaine dans un hôtel pour jouer au golf. Fait que là, oui, okay, il participe au concours. 2 semaines plus tard, on l'appelle. Félicitations, vous avez gagné! Et alors là, c'est un faux concours. Fait que là, il y a un agent d'infiltration qui s'en vient le chercher en limousine et qui l'amène pour une fin de semaine à l'hôtel Fairmont de Mont-Tremblant.
Genre, il est allé pour vrai?
Ouais, il est allé.
Hein?
Ouais, lui, il croyait qu'il avait gagné un concours.
Ben, il a gagné, il est allé.
Oui, il est allé. Mais hein? Ce qu'il savait pas, c'est que tous les autres « gagnants », entre guillemets, c'était ouais. Tous des agents d'infiltration.
OK.
C'est quand même wack quand tu y penses.
C'est, hein. Hey, imagine l'argent que ça coûte pour faire ça.
Oui, c'est ça. Ça coûte cher, des Mr. Big, là. C'est genre... Souvent, c'est des centaines de milliers de dollars. Ouais. Fait que là, dans le fond, le but des agents d'infiltration, c'était de devenir amis avec lui. Fait que pendant la fin de semaine, ils essayent tous de devenir amis. Fait que là...
C'est genre un concours de qui va réussir à être devenu ami avec le suspect.
Ouais, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, pendant la fin de semaine, apparemment qu'il y avait un agent puis Jonathan qui était dans un cart de golf. Puis au loin, dans les fenêtres d'une maison, il y avait une fille de genre 10-12 ans en bikini.
Oh!
Puis Jonathan, il aurait dit « As-tu vu le bikini? » Puis là, l'agent, il a répondu. Sûrement que dans sa tête, il était genre
red
oh
flag,
my god, oh my
red
god, oh my
flag.
God, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis? Puis là, finalement, Jonathan, après un petit silence, il a dit ah, t'es un peu jeune. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a
Calais.
Un agent qui a réussi à créer une amitié avec Jonathan. Fait que dans le fond, il l'aurait vu 25 fois sur une période de 2 ans.
OK, c'est long l'affaire.
C'est
là.
Long, hein, Mr. Big.
On était en 2009.
C'est ça, ouais, ça a commencé okay. En 2009. Fait que là, c'est ça, ça devient comme Jonathan, il est sûr que c'est son ami, là. Fait que, il fait confiance, puis là, il dit qu'il parlait de ses problèmes d'argent, problèmes de jeu. Apparemment qu'il jouait au poker 3 à 4 heures par jour et qu'il aurait perdu environ 20 000 $ dans le temps de Noël 2008.
OK.
OK, ça allait pas bien dans sa vie.
Non.
Fait que là, même que l'agent, un des scénarios, c'est qu'il donne 15 000 $ à Jonathan. Pour l'aider dans son rêve de devenir un joueur de poker professionnel. C'était ça, son rêve.
OK.
Et là, en échange, ben là, l'agent, il dit, mais faut que tu me rendes quelques petites faveurs. Puis moi, je comme dédure ça de ton 15 000 $ genre. Fait que,
c'est donc, mais fou,
c'est ça. Fait que là, les petites faveurs, tu sais, c'est genre ça, quoi, c'était les étapes d'intervention. Fait que, il y avait plein d'affaires. C'était, mettons, le suspect se rend à Québec en compagnie de l'agent pour aller chercher un véhicule. On remet les clés du véhicule. Ensuite, Jonathan, le suspect reçoit 300 $ pour sa participation et une bouteille de vin. C'est genre ça.
Après, mais ça sert à quoi, toutes ces affaires-là?
Ben, dans le fond, c'est qu'ils veulent faire à croire que son nouvel ami, l'agent, c'est quelqu'un qui est important dans un réseau, genre, underground, genre, dans une organisation criminelle. Puis, à un moment donné, le but, c'est de faire embarquer le suspect dans l'organisation criminelle.
Ah, fait qu'il fait des faveurs quand même louches un peu.
Oui, il fait faire des job-ins un peu louches.
Fais-moi un livre pour aller à l'autobus.
Mettons, il dit, d'autres scénarios, c'était genre, peux-tu aller porter cette lettre-là, genre, mettons, une enveloppe brune à telle personne? Pose pas de questions, genre, mais tu sais. Non, non. Fait qu'il faisait faire des petites affaires de même.
Puis il payait.
Puis il payait pour ça.
OK.
Fait que tu sais, le but de Mr. Big, c'est qu'à un moment donné, le suspect soit vraiment impliqué dans l'organisation, puis qu'ils veulent vraiment en faire plus. Mais là, la condition, c'est comme, ah, ben attends, si tu veux en faire plus, ben là, on voit que tu as comme un dossier les policiers, ils ont de quoi sur toi, on veut juste vérifier que tout est correct. Peux-tu nous raconter la vérité, puis nous, on va s'arranger pour que ça disparaisse.
Le but ultime.
C'est ça, le but ultime du Mr. Big. Mais. Malheureusement, avec Jonathan, ça n'a pas marché, en fait. Parce que après environ 2 ans, à un moment donné, Jonathan, il a rencontré l'agent, puis il a dit, ben, je veux mettre fin à notre amitié, parce que je suis pas vraiment à l'aise avec tes activités. Qui semble un peu louche.
Merde!
Ouais, fait que lui, le côté louche, dans le fond, ça le stressait, puis il était pas partant avec ça. Fait qu'il a comme pas embarqué là-dedans.
Aïe.
Ouais.
Mais au moins, tu sais, la police aurait vraiment tout essayé, là. Je veux dire, c'est des centaines de milliers de dollars à la poubelle, mais. Ils auront vraiment tout essayé.
Ouais, ils ont vraiment, vraiment tout essayé. Ben attends, c'est pas fini.
Non, c'est pas fini, mais jusqu'à maintenant.
Ouais. OK. Ensuite, la grosse étape. Le 11 décembre 2015, des chasseurs tombent sur des ossements de crâne et tout de suite, ils reconnaissent que ce sont des ossements humains. Dès le lendemain, ça n'a pas été long. Le lendemain de la découverte, les policiers ont identifié les ossements comme étant ceux de Cédrica.
Juste avant Noël. Donc, je m'en rappelle de ça.
Ouais. Fait que j'imagine que c'était probablement par truc dentaire, là, empreinte dentaire.
Ouais, empreinte
dentaire.
Parce
que ADN, ça a sûrement pris plus de temps qu'une journée, là. Fait que ces ossements-là ont été découverts dans un secteur boisé en marge de l'autoroute 40 Est, près de la sortie 210 à Saint-Maurice. Fait que c'est comme sur la 40, juste après Trois-Rivières, mettons,
c'est
quand tu t'en vas vers Québec.
Ouais.
Ouais. C'était à 15 km du dernier endroit où elle a été vue.
Le parc Chappet?
Ouais. Ouais, fait que bon, au moins les parents ont eu une réponse, là.
Mais quand même, 2007 à 2015.
C'était plusieurs, 8 ans après. Ouais. 8 ans d'angoisse à ne pas savoir. L'enfer. Donc, la découverte du corps met beaucoup de pression sur les enquêteurs pour essayer de fermer l'enquête. Parce que là, ça fait longtemps que c'est ouvert, c'est tellement médiatisé. Les gens sont comme, OK, vous avez le corps, là. Go, 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 genre, fermez-moi ça. Fait que là, ils essaient de mettre le paquet parce qu'ils sont convaincus que c'est Jonathan. Il y a comme un témoignage, je sais pas si il faut le prendre au sérieux. Ben oui, il faut le prendre au sérieux, mais est-ce que ça a rapport? Bon. Il y a un témoignage d'un camionneur, Richard Leclerc, qui dit qu'en 2009, donc ce serait 2 ans après l'enlèvement de Cédrica, justement, sur la 40, proche du kilomètre 222, son corps a été retrouvé au kilomètre 210, il a vu un homme arrêté sur le bord de la route. Là, lui, il s'est arrêté en se disant « l'homme, il est sûrement en panne ». Puis, quand il a comme approché, il avait l'impression que l'homme était en train de s'adresser à quelqu'un dans le bois, mais qu'il voyait pas. T'sais, le camionneur, il voyait pas qui qu'il y avait dans le bois, mais il avait comme l'impression que l'homme, il parlait à quelqu'un dans le bois. T'sais.
OK.
Puis là, fait que l'homme, il est comme venu sur le marchepied du camion, puis il a fait comme OK, qui t'a demandé de t'arrêter? Puis le camionneur était comme ah, ben, personne, je me suis arrêté. Je pensais que t'étais en panne. Puis là, non, je suis pas en panne, je connais bien le secteur, là, j'ai pas besoin d'aide. Puis il fait comme OK. Puis là, il est parti. Puis c'est après, quand il a vu Jonathan à la télé, il a fait comme c'est lui. C'est lui que j'ai vu.
Puis y avait-tu une voiture rouge?
On sait pas. Dans le bout d'entrevue que j'ai vu, okay. Il l'a pas mentionné.
Mais il a quand même reconnu le gars, là. Il l'a quand même identifié.
Mais bon, tu sais, ça reste un témoignage, tu sais, c'est jamais 100% là, les témoignages, tu peux te tromper de personne, là. Mais bon. Puis ce serait quand même 2 ans après son enlèvement. Fait tu sais, est-ce qu'il l'aurait gardé en vie 2 ans? Tu sais, je sais pas. Tu sais, c'est quand même
oh my intense, God. En tout
cas. Je sais pas. Qu'est-ce que ce témoignage-là? Alors là, la police met le paquet. Le 29 août 2016. Donc,
8 mois après avoir trouvé le corps?
Ouais, 8 mois après le corps. Jonathan est arrêté et accusé de 6 chefs d'accusation en lien de possession et de distribution de pornographie juvénile impliquant des enfants de 8 à 12 ans. Son lieu de résidence et celle de ses parents sont également perquisitionnés. Là, youpi, on se réjouit qu'il soit arrêté. Attends un peu. Ouais, c'est fâchant. Le 12 octobre 2018, donc 2 ans après les accusations, le juge Jacques Lacourcière rejette les accusations et l'acquitte avant même le début du procès.
Avant?
Puisque la preuve contre lui a été obtenue de façon illégale. Je te raconte comment. OK. Donc là, malheureusement, les policiers, dans leur... ils étaient tellement pressés d'accumuler des preuves puis de l'arrêter qu'ils ont fait ça un peu tout croche. Et là, ça leur pète d'en face. Parce que dans le fond, 2 jours après la découverte du corps, là, il était comme sous pression, les policiers ils ont contacté Facebook. Ils ont demandé à Facebook de leur donner les adresses IP utilisées par Jonathan. Mais ils l'ont fait avant d'avoir le mandat. Fait que, dans le fond, là... Puis en plus, ce qu'ils trouvent dans les adresses IP, là, c'est qu'il y avait des choses très incriminantes. Là. Dans le fond, ils découvrent que Jonathan était actif sur les forums, sur des forums explicites du Dark Web. Il participait à plusieurs discussions et invitait les autres à échanger du matériel explicite. Ses noms d'utilisateurs sur le Dark Web, il y avait Lord Them, Small Tits, Love Daddy,
Calice.
Traders et I Want Pics. Puis là, dans le fond, la justification que les policiers avaient utilisée sur le coup, c'est vu que c'était urgent, ils l'ont fait avant le mandat, puis ensuite ils ont demandé le mandat. Parce qu'ils disaient que c'était urgent à cause qu'ils venaient de découvrir le corps, puis qu'ils avaient peur que le suspect détruise des preuves. Mais le juge il a dit dans sa décision que dans le fond, il n'y avait pas d'urgence.
Il y avait
fait qu'il aurait dû demander.
Pas d'urgence?
Non. Que ça change. T'sais...
Comment ça, il n'y avait pas d'urgence?
Ben que
parce que le cas était vieux?
Oui, c'est ça.
Puis qu'il était déjà.
Oui. Fait qu'il a dit qu'il n'y avait pas raison, puis qu'il aurait dû demander un mandat normal. Puis d'attendre d'avoir leur mandat. Et là, il y avait aussi. Dans le fond, ils ont fait ça. Puis il y avait aussi une perquisition. Dans son lieu de travail, sa maison, ses parents, nan, nan. Puis ils ont perquisitionné le matériel informatique, puis ils ont vraiment tout fouillé les ordinateurs, puis ils ont trouvé des fichiers, genre des centaines de fichiers illégaux qu'ils avaient essayé de supprimer, mais qu'ils sont capables de les retrouver pareil. Mais dans le fond, le mandat qu'ils avaient pour faire ça, c'était un mandat général qui leur permettait seulement de survoler le matériel, alors qu'ils auraient dû demander un mandat plus précis pour fouiller le matériel électronique de fond en comble. Alors, cette preuve-là aussi a été rejetée par le juge. Fait que les deux genres de perquisitions, les adresses IP puis les perquisitions physiques, ont été rejetées. Fait qu'il n'y avait plus aucune preuve qui était présentable en cours. Fait qu'il est libéré. Il était acquitté.
Je suis sans mots. Les pauvres parents.
Oui. Mais tu sais, en plus, ça n'avait pas rapport à Cédrica dans le sens que c'était vraiment juste pour pornographie juvénile, mais tu sais.
Je suis sans mots.
Ouais. Fait qu'en 2019, Jonathan dépose une poursuite contre la SQ pour 10 millions. Parce qu'il dit qu'ils ont gâché sa vie, qu'à cause de eux, il est sur le PS. Dans le fond, il a perdu. Même si c'était une entreprise familiale, ils ont dû comme le renvoyer vu qu'il y avait des trucs de pornographie.
Je vais mettre ça dans l'os si tu me dis qu'il a gagné.
En fait, c'est pas encore fini. Okay. Le procès n'aura pas lieu avant 2023.
C'était en 2019.
Il est déposé en 2019. Mais là, il y a eu la pandémie, j'imagine, ça a retardé tout ça. Là. Mais c'est ça, tu sais. Parce que c'est sûr que, tu sais, Trois-Rivières, c'est pas gros, là. Il en a reçu des menaces de mort, puis genre, tu sais, mettons, une corde de pendu devant sa porte, genre des. Parce que, tu sais, là, on sait que c'est un pédophile. Mais c'est vrai que si c'est pas lui qui a tué Cédrica, c'est vrai que ça a vraiment gâché sa vie, là.
Mais ça reste un pédophile.
Là,
ça, c'est prouvé. Ouais,
ça, c'est prouvé.
Ça a été rejeté, mais c'est prouvé.
Ouais,
pareil.
C'est ça, on le sait. On le sait,
c'est un pédophile.
Même que, tu sais, j'ai hésité à dire son vrai nom, parce que j'étais comme, tu sais, il a jamais été accusé, il a jamais eu d'accusation déposée pour le meurtre de Cédrica contre lui, mais son nom est tellement partout dans les médias que ça sert à rien que je le dise pas là.
Non, vous devinerez quand je l'ai réveillé.
C'est ça. Fait que c'était le suspect, puis l'enquête en est restée là. T'sais, il y a eu d'autres petits suspects, comme...
Mais, d'autres pistes.
Il y avait un certain Claude Larouche, qui était un pédophile aussi, qui avait déjà été accusé d'un enlèvement d'un enfant, qui avait passé sous la mire des policiers, mais vraiment, le suspect le plus sérieux, ça reste Jonathan.
Je te dis, je sais pas quoi dire.
C'est vraiment fâchant.
2023, le procès, on n'a pas de date.
Non, pas encore.
OK.
J'ai juste lu...
On va suivre ça en titi.
On va suivre ça. On fera un update. Fait que là, c'est là que l'enquête, malheureusement, que s'arrête ça pour Cédrica pour l'instant. Puis là, j'ai juste pris un petit moment. Enfin, tu sais, pourquoi Cédrica nous a-t-elle tant marqué? J'ai comme essayé de trouver des réponses, tu sais. Pourquoi ce cas-là plus que d'autres? Puis il y en a beaucoup qui disent qu'il y a vraiment eu un avant et un après Cédrica. Tu sais, ça a changé la façon dont la police gère les cas d'enlèvement. Tu sais, même... Tu sais, c'était tellement un gros phénomène au Québec, là. Tu sais, la version québécoise de Cards Against Humanity, là, le style jeu. Tu sais, il y a même une carte Cédrica Provencher dedans. Tu sais, c'est rendu au point qu'on fait des blagues de Cédrica Provencher.
C'est vraiment
horrible. Dark. Vraiment, ouais.
Non.
Mais tu sais, ça s'est rendu à ce niveau-là au Québec, là, dans l'imaginaire québécois. Il n'y a personne qui connaît pas ce nom-là. Non, c'est ça, là. C'est gros, là.
Dans un studio qui fait une carte là-dessus.
Ouais. C'est quand même vraiment...
OK. C'est un jeu très populaire au Québec, pour ceux qui ne connaissent pas.
J'ai trouvé dans un article qu'il y avait Pina Arcamon, qui est la directrice générale du réseau Enfants en retour. Son explication, pourquoi ça a été autant médiatisé, elle dit que c'était le début des émissions de nouvelles en boucle. T'sais, avant, tu avais, mettons, le bulletin de nouvelles de 18h, puis that's it. Mais tu sais, là, autour de 2007, c'est là que, mettons, RDI en direct a commencé. Fait que tu as juste les mêmes nouvelles aux 15 minutes, genre, ou aux 30 minutes. Fait que c'était juste en boucle tout le temps, genre, des nouvelles de Cédrica. C'était le début de Facebook.
Oui.
Tu sais, 2007, on était en plein dedans. Fait que c'était comme la première fois au Québec qu'on utilisait Facebook pour un cas d'enlèvement, tu sais.
Puis il y avait beaucoup de groupes, puis il y avait...
Ouais, vraiment. Puis aussi, la disponibilité de la famille de Cédrica, ses parents, son grand-père, qui ont été devant les médias, c'est ça, qui ont vraiment contribué à ce que la nouvelle ait de l'attention.
Le visage des parents dévasté aux nouvelles, il n'y a rien de pire que ça.
Non. Puis tu sais, ça reste comme le scénario, le pire cauchemar de tous parents. C'est genre le scénario typique.
Rejoint presque tout le monde.
Ben oui, c'est ça, tu sais.
Même ceux qui n'ont pas d'enfants, je veux dire.
Tu peux quand même t'imaginer que c'est la pire chose, tu sais. Il y a par exemple des policiers ou certaines personnes qui disent que peut-être que l'intensité de la couverture médiatique a peut-être pu inciter le tueur à se débarrasser de Cédrica parce qu'il y avait trop d'attention médiatique sur ça, tu sais. Bon, écoute, on sait pas, là. Et par exemple, ça a eu, mettons, des points positifs, là, vu que ça a été souvent les cas marquants. Ça fait ça, là.
Ça fait avancer les choses, malheureusement, mais ça fait avancer les choses. Fait
que, justement, le réseau Enfants Retour, là, juste après Cédrica, dans le fond, il y a 20 000 parents qui ont inscrit leur enfant, là, qui ont fait comme le carnet d'identification. Tu peux faire ça, je ne savais pas. Dans le fond, avec comme la photo, genre les informations de ton enfant. Fait que si ton enfant disparaît, t'as comme déjà ça dans Enfants Retour, en tout cas.
OK.
Ouais.
Ah, on peut faire
ça. On peut faire ça. J'ai appris ça en faisant
des... Je savais même pas non plus.
Moi non plus. Et aujourd'hui, le 31 juillet, donc la journée de sa disparition, est reconnue comme la journée mondiale de prévention des enlèvements d'enfants. Puis ça, c'est une initiative du grand-papa de Cédrica, Henri Provencher. Puis aussi créer la fondation Cédrica Provencher pour sensibiliser le Québec à la disparition, puis essayer de prévenir, comme qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir les enlèvements.
Oh,
alors, puis le parc Chappé a été rebaptisé en son honneur aussi.
C'est vrai?
Ouais. Puis, c'est ça. Fait que. Oh. Elle aurait eu 24 ans aujourd'hui.
24 ans?
Ouais.
Ah, j'ai des frissons.
Je sais, ça me.
Fou. Aïe, aïe, ok.
Ouais. C'est ça.
On dirait, je regarde ta fille qui est à côté de moi, ça me donne des frissons.
Oh, vraiment, là. Vraiment, vraiment.
OK. Mm. Allez, j'ai appris vraiment beaucoup de choses sur ce colloque que je savais aussi. Pas.
Vraiment, là, en recherchant, je connaissais vraiment pas grand-chose.
Ouais. Non. Mm. Parce que c'est exactement... C'est un nom que tout le monde connaît.
Mm.
Elle aurait 24 ans.
Ouais.
Et on dirait que ça me donnait une claque d'en face.
Mm.
Pauvre petit cœur.
Vraiment.
Mm. Une sympathie aux parents et ouais, à la vraiment, famille, Colin. Vraiment. Wow, OK.
Mm.
Ben, on en a appris beaucoup, en tout cas.
Mm. Fait que, ben, écoutez, l'enquête est encore ouverte. Si jamais ouais. quelqu'un de vous, quoi que ce soit à dire aux policiers, s'il n'est pas trop tard. Mm.
Ah, je suis flabbergastée.
Voilà, gros cas.
Ouais, vraiment.
Ouais.
Pour notre anniversaire de 2 ans. Écoute, c'est ça qu'on a choisi de faire. C'est ça qu'on a choisi de faire. Hein? On raconte des histoires
horribles. Voilà.
Avec beaucoup trop d'enfants.
Mm-hmm.
Beaucoup trop.
Beaucoup trop. Bon, on va mettre fin à ça parce que ma petite, elle s'est réveillée.
Ouais.
Et puis la tienne aussi.
Fait non, que... elle s'est rendormie.
Ah oui?
Ouais.
Ah, bah ouais, c'est efficace, cet enfant-là. C'est bien élevé.
Eh ben, fait que dans 2 semaines, on se revoit pour l'Halloween.
Oui, il n'est pas trop tard. On va y une nouvelle histoire.
Ouais.
Go, go, go.
Puis notre Patreon exclusif sort.
Oui!
Semaine pro?
Semaine.
Écoute, on est en avance. Fait que.
Non, pas long.
Fidèle à nous-mêmes, on est un peu n'importe quoi. Donc, ouais. Ça sort quelque part en octobre.
Ouais, fin octobre. Je pense le 24 octobre.
Donc, semaine prochaine.
Genre.
On est un peu mêlés, là.
On est un peu mêlés, on a juste un
mais
peu
mêlés. On a fait des contenus exclusifs, puis on vous les...
On vous les donne.
On vous les donne. Fait que merci beaucoup à tous ceux qui se sont inscrits sur notre Patreon, encore une fois. On en a vraiment de plus en plus, je capote.
Oui, hey, merci vrai. Tellement.
Fait que ça nous motive, puis ça nous donne aussi du budget pour faire un peu plus de choses et de beaux projets à venir.
Mmh.
Donc, à suivre. On vous tient au courant. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On vous adore, puis passez 2 belles semaines et on se revoit à l'Halloween.
À l'Halloween. Bye!
Bye! Angela voulait dire bye-bye. Je voulais dire bye-bye.